Ce podcast du OFF 2018 vous est offert par la Maïf, assureur du Festival d'Avignon.
Osmose Radio.
Osmose.
Osmose.
La web radio du OFF.
Vous apprendrez bien vite qu'au théâtre, le meilleur se passe souvent en coulisses.
Être ou ne pas être au Festival d'Avignon, c'est la question qu'on peut se poser encore une fois.
Un œil en coulisses, l'émission qui débauche les artistes et les déloge le temps d'une heure.
Bienvenue dans Un œil en coulisses sur Osmose Radio, chers amis. Et comme vous le savez, en tâtant un petit peu de la programmation du Festival OFF, il y a parfois des spectacles qui nous laissent sans voix. Ça a été un petit peu mon cas hier quand j'ai découvert le spectacle dont on va parler aujourd'hui, Oui à la vie. Et c'est à l'Ambigu Théâtre, tous les jours à 16h45, pour lesquels je reçois Camille et Nicolas Combes. Bonjour.
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 Alors, c'est un spectacle un petit peu singulier déjà, c'est souligné, en tout cas suggéré dans le titre de la pièce, Oui à la vie, oui avec un tréma sur le i et un e à la fin. C'est un jeu de mots sur évidemment Louis, ce sens qui nous paraît évident mais qui ne l'est pas pour tout le monde. Et puisque vous, Camille et Nicolas, vous êtes dans une situation un peu singulière, alors levons le mystère tout de suite, vous n'êtes pas mari et femme, vous êtes frère et sœur. Et oui. En fait, Camille, vous avez grandi avec Nicolas, et vous-même, Nicolas, vous êtes sourd de naissance. Et vous avez réussi ce tour de force, à mon sens, bien que la technologie vous ait un petit peu aidé, vous avez réussi ce tour de force d'apprendre à parler alors que vous n'entendiez pas votre voix, et de fait, sur scène, on vous comprend assez bien.
Pas du moins.
Alors vous dites que je dis que la technologie vous a aidé parce que si vous êtes dans ce studio aujourd'hui et que vous a priori vous continuez à lire un petit peu sur mes lèvres pendant que je vous parle, mais c'est de bonne guerre, vous avez quand même des implants, on appelle ça des implants cochléaires, qui dans l'oreille interne en fait, qui vous aident à mieux percevoir les sons qui vous entourent. Vous les avez eus à quel âge s'il vous plaît?
La première fois, j'avais 14 ans.
14 ans, d'accord.
Du côté droit. Et le deuxième, du côté gauche, il y a 3 ans.
Ah d'accord, vous avez été en stéréo seulement un peu plus tard. Très bien. Et bah, écoutez, c'est pour le coup la technologie et la technologie du smartphone aussi, mais ça on aura l'occasion d'y revenir quand on parlera un petit peu plus précisément du spectacle, vous a beaucoup aidé. Et vous Camille, qui n'êtes pas dans cette situation-là, vous avez grandi avec Nicolas et vous avez finalement été dans une situation, au moins jusqu'à ses 14 ans, mais aussi après, vous avez été dans cette situation un petit peu particulière, de bien vous entendre sans forcément que l'un entendre aussi bien que l'autre.
Oui, c'est ça. Quand on était enfant, on avait notre langage à nous. Mmh. On signotait, c'était un peu de la langue des signes, on avait nos signes à nous. On se comprenait sans se parler, on était très complices, très proches, un peu comme des jumeaux. Et à l'adolescence, on a découvert le langage parlé complété. Qui permettait à nos parents et à nous deux de tous parler la même langue, qui respecte la langue française. C'est un langage, donc ça suit la langue française et ça complète, pour les consonnes et les voyelles, ça complète avec la main près du visage. Et on est resté là-dessus. Et puis maintenant, aujourd'hui, on parle. Enfin, Nicolas, quand je parle comme ça, me comprend très bien. Et il n'y a plus besoin de tout ça. Et c'est vrai que les implants cochléaires lui ont permis de beaucoup mieux entendre avec des sons beaucoup plus précis que les appareils auditifs qu'il avait eus par le passé.
D'accord. Il y avait déjà des technologies qui pouvaient aider en ce sens avant ces fameux implants.
Oui, ce n'était pas encore comme maintenant, mais oui.
Très au point. Très bien. J'ai eu un grand-oncle qui avait des grosses trucs derrière les oreilles qui m'impressionnaient un peu quand j'étais petit, mais lui c'était parce que c'était l'âge qui empêchait son audition, c'était pas un handicap de naissance. Alors un handicap que vous contournez brillamment, notamment avec ce spectacle, ce qui n'était pas évident. On connaît tous Emmanuel Laborie, qui était sur scène d'ailleurs au Festival OFF, c'était hier soir je crois.
Oui, à contre-courant.
Voilà, et vous êtes allé la voir justement. Comment vous, Nicolas, vous avez appréhendé le fait de venir sur scène et de vous exprimer devant des gens? Parce que pour des gens qui ne sont pas dans votre situation, c'est pas facile déjà de s'adresser à une masse de gens, c'est intimidant. Et pour vous qui en plus contournez à mon sens brillamment ce handicap de naissance, mais tout de même qui devez composer avec, comment vous avez appréhendé de vous retrouver sur scène devant des gens et de vous adresser à eux, de leur parler?
Bah déjà, à la base, je ne suis pas comédien. Depuis que Camille m'a proposé de travailler avec elle, il y a 12 ans. Il m'a dit qu'il y a graphite et une tata. Et du coup, il a appris tout le temps avec Camille. C'est Camille qui m'a formé. C'est un peu l'école de la vie, ça veut dire.
L'école de la vie, ça peut être très utile, en effet.
Et du coup, après, bah, déjà au début, quand j'ai fait les répètes, bah, je ne parlais pas assez fort. Mais avec le temps, j'ai appris à parler, à articuler un peu plus, à porter la voix, tout ça. C'est vraiment avec le temps.
C'est vraiment une démarche de confiance, en fait, qui s'est... C'est pour ça qu'il a accepté. Il savait que si je lui demandais, c'est qu'il en était capable, que j'étais pas. Je savais qu'il fallait qu'il joue son propre rôle. Il n'y avait que lui qui pouvait jouer ce rôle-là. Et je lui ai demandé de me faire confiance. Et comme on est très complices, très proches, on se comprend parfaitement tout le temps, je lui ai dit, tu verras sur scène, ça se verra et tu vas être porté par ça. Et pour tout ce qui est technique, tout ça, on travaillera, bien sûr, mais... La complicité, notre relation, la sincérité, ça va vraiment... il y aura une alchimie sur scène et ça va marcher.
Et je vous confirme, ça marche. C'est à l'Ambigu Théâtre. Alors, c'est une toute petite scène, ce qui facilite aussi un petit peu l'aspect intimiste du spectacle, mais on aura l'occasion d'y revenir. Toujours est-il que vous avez un petit peu laissé entendre que vous étiez vous-même dans les Beaux-Arts. Nicolas, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Quant à vous, Camille, votre parcours professionnel avant ce spectacle, finalement, ça a été déjà la scène et le théâtre.
Oui, tout à fait. Moi, je suis comédienne de formation. J'ai toujours écrit en parallèle, et là c'est ma première création aboutie, parce que jusqu'à maintenant ce que j'écrivais, c'était finalement je laissais tomber parce que j'étais rattrapée par ma vie quotidienne, par d'autres projets, et là c'est ma première création aboutie, même si elle va encore évoluer, mais que j'ai pu présenter sur scène, voilà.
Très bien, en tout cas un projet familial en somme que vous avez mené. Alors il y a quand même deux absents dans votre spectacle, mais en même temps ce n'est pas tout à fait le propos, ce sont vos parents qui eux aussi ont une place à mon sens primordiale dans la situation que vous vivez.
Bien sûr.
J'imagine qu'ils ont été très aimants, très compréhensifs, vos parents, en ce qui vous concerne. En tout cas il n'est pas question d'eux. Pour vraiment parler dans le spectacle, mais ils sont quand même en arrière-plan, on sent ça. Et pour en revenir donc précisément à ce spectacle, il s'agit en fait de jouer votre propre rôle, Nicolas. Vous portez vos noms, encore que vous, Camille, vous incarnez différents personnages, tantôt la sœur, on va dire une bonne moitié du spectacle.
Quand je suis la sœur, je m'appelle Camille, voilà. J'ai respecté ça.
Et puis tantôt, vous êtes l'emmerdeuse qu'on croise en boîte de nuit, ou la fille dans la cour d'école, etc. Et donc, en fait, ce spectacle suit un plan tout simplement chronologique de votre enfance à votre âge adulte. Mm-hmm. Et quand même, vous avez quelques mots d'introduction, et pour nous présenter un petit peu la... Je vais dire, c'est pas vraiment un problème, puisque finalement on comprend bien tout, mais ça reste quand même la problématique du spectacle, c'est-à-dire le thème et la façon dont il est abordé. Et c'est vous, Nicolas, qui vous en chargez, puisque c'est vous qu'on découvre sur scène quand la lumière s'allume. Et vous nous parlez, vous faites des jeux de mots, et vous nous expliquez qu'il y a des mots plus compliqués que d'autres à prononcer. C'est quand la lumière est sur vous et que vous voyez les gens et qu'ils s'attendent à vous entendre, sachant que la communication pour vous n'a jamais été facile, n'est jamais été quelque chose qui allait de soi, c'est pas une situation qui vous a trop impressionné au début ?
Peut-être pas quoi ?
C'est pas une situation, le fait que les gens s'attendent à vous entendre parler, est-ce que ça n'a pas été quelque chose de très impressionnant au début ?
Bah déjà, depuis le premier à monter sur scène, c'est le plus difficile.
Parce qu'il
y a des tracks avant, bien sûr.
Et puis, mais c'est pareil en radio, vous savez.
C'est vrai qu'il ouvre le bal en étant seul sur scène, en lumière, et c'est toujours impressionnant, quoi.
Mais parfois, quand je monte le premier sur scène, dans ma tête, il me dit... Je vais tuer ma chien, parce que pourquoi elle me fait ça, c'est ça.
Mais c'est vrai
mais
que
après,
là...
Elle est détendue.
Elle vous lâche un petit peu au début, vous avez raison, mais elle revient se faire pardonner juste après. Et donc on suit ce plan chronologique, après cette introduction, cette mise en bouche, et que le thème soit posé. On suit le plan chronologique avec quelques aides, là encore de la technologie, mais il s'agit de projection, puisque une grande partie du spectacle pas entièrement, contrairement à ce qui est dit dans le dossier de presse, mais une grande partie du spectacle est surtitrée, au cas où on aurait des problèmes de compréhension, mais en fait, ce serait presque accessoire. Disons que ça nous rassure, nous, en tant que public, de voir écrit ce que vous dites ou ce que vous percevez, mais en fait, très rapidement, on décroche et ça ne nous sert plus à grand-chose. Voilà.
Bah, tant mieux. Mais c'est important qu'il soit là, ces surtitres, parce que voilà, quand on s'exprime... À l'oral, il faut que les sourds ou les malentendants puissent regarder les surtitres pour ne rien manquer. Inversement, quand il y a des passages en langue des signes, il faut que les entendants qui ne connaissent absolument pas cette langue puissent suivre aussi. Et puis les surtitres aussi peuvent trahir ou révéler des pensées de Nicolas, quand, voilà, qu'il n'ose pas dire, mais ça peut révéler ces pensées-là. Et puis, ça indique aussi des sons qu'on n'entend pas forcément.
Des sons de cours d'école, etc. Et en ce sens, nous, le public, on est en situation de gens qui regardaient le sous-titrage Antiope à la télévision. Je ne sais pas si ça existe toujours à la télévision dans les années 80, tout ça. Ce système qui permettait aux sourds et aux malentendants de bien comprendre ce qui se passait à l'écran quand bien même il n'y avait pas de sous-titres, comme pour un film étranger, par exemple. Et vous faites bien de préciser ce thème de la langue des signes, parce qu'effectivement, elle est très peu utilisée dans ce spectacle, quand bien même il y a quelqu'un, un sourd sur scène, mais vous nous en donnez quelques éléments au début du spectacle en s'adressant à nous avec cette fameuse langue des signes, cette fameuse gestuelle caractéristique, et en nous donnant quelques indications, mais en nous laissant comprendre tout de même que ça ne va pas être l'ensemble du spectacle. Donc voilà, tout à l'heure je vous ai dit bonjour et vous m'avez rectifié, en fait j'avais pas dit bonjour, j'avais dit sushi, c'est ça?
Donc, ça voilà. Ressemblait à quelque chose de oui, sushi.
Même en langue des signes, j'arrive à bafouiller. Pour un animateur radio, c'est quand même un peu naze. Mais bon, tant pis. Quoi qu'il en soit, on suit ce plan chronologique. Alors, de la cour d'école, des dessins animés quand on regarde à la télé quand on est petit, avec des aspects sympathiques, puisque je répète, quand même, il y en a un des deux qui est sourd, vous vous entendez bien. Attention, subtil jeu de mots. Mais y a quand même des situations qui sont dues en tension entre frères et sœurs pendant l'enfance. On se tire les couettes, on s'engueule. Mais,
on est cruel.
On est cruel aussi, la cruauté de l'enfance. Et je me demande, lequel de vous deux est le grand frère et la petite sœur ou l'inverse?
Moi, je suis l'aîné d'un an.
D'accord.
Voilà.
Donc, en fait, c'est le deuxième, le rebelle.
Le rebelle. Avec votre petite mèche sur le côté, vous le faites bien. Exactement. En effet, le rebelle, disais-je. Et effectivement, ben, on sent aussi un petit peu cette tendance qui existe chez les autres, chez la plupart des enfants, en fait, que le deuxième, qu'il soit fille ou garçon, mais en l'occurrence c'est vous, Nicolas, le deuxième a besoin de plus d'attention. Et ça s'est ressenti d'autant plus cruellement. En tout cas, c'est ce que j'ai perçu dans le spectacle, qu'en fait, il y en a un des deux qui a un handicap, quand bien même, ce n'est pas un handicap incontournable.
Oui, c'est ça. Ben, dans toutes les fratries, voilà, c'est toujours de la complicité, je t'aime, je te hais, des cruautés, etc. Mais c'est vrai que quand il y en a un des deux qui a un handicap ou qui ne peut pas suivre autant que l'autre, là, ça ressort d'une façon terrible, alors que c'est juste deux frères et sœurs qui se chamaillent quoi, au départ. Hein, mais ça, c'est intéressant, je trouvais, à montrer aussi.
Personnellement, je ne me sens pas vraiment handicapé. C'est plus la communication elle-même qui nous handicape. Parce que nous avons notre propre culture, hein, la langue des signes, notre théâtre à Paris, les BD, tout est conçu pour que les sourds soient bien dans leur peau. Mais après, c'est le reste de la société, leur regard, tout ça.
Et règle de la société dont je me fais l'écho moi-même avec cette expression un peu maladroite, je m'en excuse. J'ai parlé d'handicapé, c'est vrai, mais c'est aussi l'image que la société nous renvoie, vous comprenez. Et c'est aussi pour ça que je disais que la communication pour vous était quelque chose qui n'allait pas de soi. Mais si vous me permettez, je ne vais pas me plaindre, attention, moi j'ai une audition à peu près correcte. Parfois j'ai du mal à comprendre ce qu'on me dit, mais c'est parce que je ne fais pas attention.
Et, on parle de ça aussi.
Voilà. Et finalement, des fois, en les observant, je me suis demandé si finalement, les sourds-muets qui parlent la langue des signes, on les appelle les sourds-muets, ils sont rarement les deux en fait.
Ah oui, non, ils sont même muets, c'est parce qu'ils ont choisi de l'être, ils ont choisi de pas parler parler à l'oral, de parler qu'avec les mains, parler que la langue des signes. C'est un choix de vie, voilà, c'est un choix de vie. Nicolas, lui, son choix de vie, c'est de parler la langue des signes, de parler à l'oral pour pouvoir rencontrer les entendants. de parler le langage parlé complété avec ceux qui pratiquent aussi ce langage. Voilà, c'est
le langage parlé complété qui consiste à parler vocalement et en s'aidant de la langue des signes, c'est bien ça?
Pas tout à fait. C'est en fait, on parle, on oralise,
oui.
Et en même temps, on code toutes les syllabes et les consonnes. Donc en fait, les consonnes, c'est avec la main.
En dessinant les caractères romains avec les doigts, en fait.
Non, c'est des signes, voilà, qui sont définis.
C'est une convention,
c'est
d'accord.
Des signes, c'est du code, le codage.
C'est du code, voilà. Et après, les voyelles, on place la main à certains endroits du visage pour préciser ce qu'on dit.
C'est
un peu compliqué à expliquer.
C'est comme des clés qui permettent à mener une navire.
Voilà. Ça, c'est pour les sourds, d'accord, qui lisent sur les lèvres et qui ont besoin de compléter avec la main pour être sûr de bien tout comprendre.
Parce que la discrimination de mots que tu ressembles, comme mouche, bateau, machin, et du coup, il y en a besoin de code pour mieux différencier le mot.
D'accord. Ok, donc ça c'est une nuance qui m'avait échappé, une subtilité qui m'avait échappé hier, autant pour moi. Et effectivement, donc la langue des signes, parfois, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, en observant des gens parler en langue des signes uniquement, je me suis demandé s'ils n'avaient pas une communication plus intense et plus profonde que les gens qui parlent de la pluie et du beau temps dans la file d'attente des magasins. Et enfin, c'est une réflexion personnelle. Quoi qu'il en soit, donc on aborde les situations du quotidien, ça a été le prisme que vous avez choisi pour la mise en scène, en vous aidant de ces projections notamment et de quelques effets assez sobres des effets sonores qui sont surtitrés, donc pour ceux qui en auraient besoin. Et donc on entend les bruits de la cour d'école, on entend les bruits du dessin animé à la télévision.
On ne les entend pas. Le bruit du dessin animé, par exemple, pendant l'enfance, on voit son de dessin animé, mais on n'entend pas le son. Ou alors, c'est vous qui l'avez créé dans votre mental.
C'est un petit peu comme quand le mime Marceau allait faire pipi à son chien dans la rue, et il y a des tas d'enfants qui ont vu le chien, alors que c'était le mime Marceau. Là, je reconnais, m'avez eu.
C'est drôle.
Ouais, bande d'enfoirés. écoutez, voilà ces situations du quotidien que vous décrivez. Donc là, c'est votre enfance. Ensuite, à l'adolescence, on va en boîte, et là, on danse. Et bon, les basses sont tellement fortes qu'elles nous assourdissent, ou alors qu'on les perçoit, et là donc il y a quelqu'un qui vient vous parler, Nicolas, et vous ne comprenez pas, et elle ne comprend pas qu'en fait
vous ne comprenez pas
et ça crée des quiproquos, des situations un petit peu absurdes, et vous jouez là-dessus. Moi, je vous rassure, ça m'est arrivé aussi. Il y a un gars qui était venu me parler en boîte, les basses étaient tellement fortes, je lui ai dit je t'entends pas, et c'est en l'observant après qu'en fait je me suis aperçu qu'il allait parler à tout le monde pour vendre des pilules. Donc vous voyez, c'était un dealer, en fait, voilà, tout simplement.
Ça nous est tous arrivé, en fait.
Exactement.
Il y avait une personne qui est venue me parler à boîte.
Ouais.
Il était content parce que ça m'arrive pas souvent. Mais en fait, il vient de la drogue. Merci.
Ah, vous aussi, ça vous est arrivé? On s'est tous fait démarcher par les dealers.
N'allez plus en boîte.
Décidément. Bon, bref, les enfants, ne touchez pas à l'alcool ni à la drogue. Encore que ce soit pas trop à moi de dire ça en ce qui concerne l'alcool. Quoi qu'il en soit, il n'est que 10h du matin, donc j'en suis encore au café, et on parle d'autres situations du quotidien. La colocation notamment, où parfois les sourds et malentendants ont des gestes malencontreux qui peuvent importuner ceux qui ne le sont pas autour d'eux. Vous claquez la porte, par exemple. Blam.
Cette pièce, c'est que des histoires. Enfin, c'est une histoire vraie. Il y a des éléments inspirés de faits réels, mais tout est vrai, hein, tout est sincère. Et c'est vrai qu'on a été 3 ans colocataires, et Nicolas ne se rendait pas toujours compte du bruit qu'il faisait quand il rentrait de soirée. Et moi, j'ai l'oreille plutôt fine.
Très très fine.
Très très fine.
Vous complétez bien.
Voilà. Donc du coup, oui, ça a été sujet de discorde, forcément.
Très bien. Et donc voilà, j'ai pris un petit peu de temps pour souligner ces différentes situations du quotidien assez cocasses que vous nous décrivez. Et un autre aspect qui est vraiment séduisant dans votre spectacle et auquel on ne s'attend pas, c'est que on ne connaît pas forcément votre parcours professionnel quand on est parmi le public, Nicolas. Et en fait, vous prenez un crayon, enfin un feutre et quelques feuilles de papier. Et là, on s'aperçoit que vous dessinez superbement bien. En 3 coups de cuillère à peau, vous nous faites un dragon versus le petit prince. J'ai envie de dire, et donc ça ajoute un petit peu à la magie du spectacle. Vous êtes diplômé des Beaux-Arts vous-même, vous nous disiez tout à l'heure que vous étiez graphiste
et illustrateur
D'accord, donc il faudra nous laisser quelques éléments, une bibliographie en exergue. Et donc voilà, c'est une création, pour vous, c'est un premier travail abouti en fait. Vous avez beaucoup travaillé sur autre chose.
Abouti en fait, ce spectacle va encore évoluer parce qu'il va falloir qu'on l'adapte à une plus grande scène à Paris, donc, parce qu'on est programmé à l'International Visual Theatre en 2019. Et le texte va quasiment pas changer, il va peut-être y avoir quelques scènes de plus, mais surtout pour les enchaînements, pour le paperboard, Nicolas qui dessine sur un paperboard, ça va pas être possible sur une grande scène. Donc,
sur une tablette.
Sur une tablette avec projection, on est en train justement de mettre ça en place. Et donc c'est abouti, voilà, il va y avoir encore un peu d'évolution, mais c'est une création, c'est normal. Voilà.
Ça rejoint le thème de la technologie que vous citez pendant le spectacle. Ces implants vous ont beaucoup aidé, mais le smartphone aussi tout simplement, que pour ma part je vitupère parce que c'est un outil qui a parfois tendance à nous vider de notre essence vitale, mais en ce qui vous concerne, il vous a beaucoup aidé ce fameux smartphone, car il vous permet de voir vos interlocuteurs, le cas échéant de lire sur les lèvres, ou bien tout simplement les fameux SMS qui sont un progrès considérable.
Bah FaceTime, oui. Quand tu as découvert FaceTime, pour toi c'était incroyable, tu pouvais vraiment appeler des gens sans envoyer un message à chaque fois.
Effectivement, l'iPhone a apporté beaucoup de progrès, parce que ça permet à toute personne de mieux se communiquer. C'est pas comme dans les années 80, où il n'y avait que le Minitel, et maintenant tout le monde utilise le SMS ou le FaceTime.
Et il y a Roger Voice aussi.
Oui, là, on a l'application Roger Voice qui traduit automatiquement la voix à l'écran.
Ça, c'est incroyable aussi, oui.
C'est une application qui permet.
C'est une application, oui, qui permet d'appeler et en fait, c'est retranscrit à l'oral pour les entendants, si, voilà, ou à l'écrit pour les sourds qui reçoivent l'appel.
D'accord.
Donc c'est
super, ça c'est assez génial.
Mais on n'arrête pas le progrès et tant mieux.
Ben là, je suis le premier à reconnaître qu'effectivement ça peut être très utile. Voilà, donc un spectacle qui se produit à l'Ambigu Théâtre à 16h45 tous les jours jusqu'à la fin du festival. Oui à la vie, viva la vida, comme chantait cette chanteuse péruvienne. Et bien en l'occurrence, votre spectacle est un bel hymne à la joie de vivre, y compris malgré les petits emperdements qu'on peut avoir au quotidien. Alors donc vos projets, c'est cette grande scène à Paris incessamment sous peu, donc début 2019, pour lequel vous allez retravailler le spectacle, pour lequel, Nicolas, vous serez devant encore plus de gens. Bon courage.
Et, on va se préparer.
Et comme disaient les saintes écritures, au commencement était le verbe, mais bon, il n'a jamais été précisé que ce verbe devait être dit à voix haute. C'est pour le cas où on en douterait, vous nous le prouvez sur scène dans ce spectacle. Oui à la vie. Merci Camille, merci Nicolas,
merci beaucoup
d'être venu nous parler à l'antenne.
Merci.
Et puis j'invite évidemment les gens curieux à aller vous voir et éventuellement aller vous parler après le spectacle. Quand même, ils ne maîtriseraient pas la langue des signes, vous leur apprendrez quelques mots, je suppose. Vous pouvez regarder la webcam et nous dire au revoir en langue des signes, s'il vous plaît.
C'est,
tout simplement.
C'est hyper simple.
Au revoir.